9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, c'est Frédéric Taddeï, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. J'ai une pensée pour celles et ceux qui m'ont précédé derrière le micro de cette émission. Dominique Souchier, Arlette Chabot, David Abitker et bien entendu Patrick Cohen. Pour cette première de la saison, je reçois le généticien Axel Kahn, venu nous entretenir de cette France qui se masque désormais dans la rue, à moto, au boulot, au collège, à l'université, bientôt peut-être à la radio et à la télévision. Dans un pays comme le nôtre où cacher son visage est très mal vu, ça change pas mal de choses. Il y a un petit côté Far West de notre enfance, tous masqués pour attaquer la diligence, n'est-ce pas, Axel Kahn ?
Oui, Far West sous bal masqué.
Je recevrai ensuite Hugo Frey, qui lui aussi a beaucoup joué au cow-boy. Son nouvel album est une véritable synthèse de toutes les musiques américaines, mais chantée en français. Je recevrai enfin Alice Zeniter. Elle a écrit l'un des meilleurs romans de cette rentrée, Comme un empire dans un empire. Si vous n'êtes encore jamais allé acheter des armes ou de la drogue sur le Darknet, restez à l'écoute, vous risquez d'apprendre des choses. Axel Kahn, vous êtes docteur en médecine, généticien, chercheur. Vous êtes à la fois un homme responsable et un homme d'imagination. Le masque obligatoire, partout ou presque, vous l'aviez vu venir ?
Oui, à l'intérieur, non seulement je l'ai vu venir, mais j'ai fait partie de ceux qui l'ont réclamé. Car il y avait déjà un frémissement avec une réaugmentation des contaminations et il me semblait que c'était important. L'essentiel des contaminations, on y reviendra, se fait à l'intérieur.
Ce qui peut paraître difficile à admettre pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'à la différence du mois de mars, il n'y a que 4535 patients hospitalisés du fait du Covid, dont 387 seulement en réanimation. On a l'impression d'une épidémie sans malades. On se trompe ?
Oui, on se trompe. C'est qu'on ne sait pas compter. Lorsque on a confiné le 17 mars, entre le 17 mars et le 24 mars, on considère qu'il y avait 200 000 à 500 000 nouveaux contaminés chaque jour. Aujourd'hui, il y en a quoi ? Il y en a 10-15 000. C'est-à-dire, quand vous regardez le nombre de morts que l'on a eu trois semaines après, 1000 morts par jour, aujourd'hui, dans un mois, si on reste là, on peut compter 50 morts. Aujourd'hui, on a eu 102 morts la semaine dernière, plus 19%. Donc, le décalage, il est normal. Il n'empêche que le taux de contamination qui était de 1% positivité des PCR, de 1% fin juin, il était à 3,9% cette fois-ci. C'est-à-dire que ça a quadruplé. Et ça, comme je l'ai dit, il ne faut pas faire les andouilles.
Oui, en effet. Alors, bon, on s'en souvient, tout le monde l'a redit, les masques étaient inutiles fin février pour le ministre de la Santé, quand on n'était pas malade. Il l'avait redit le 6 mars, il avait même dit, j'insiste, ce n'est pas recommandé quand on n'était pas infecté. Le directeur de la santé, lui, l'avait répété le 18 mars, ça n'a pas de sens de porter un masque. La seule, la meilleure des protections, disait-il, ce sont les gestes barrières. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, les urgences étaient débordées. Il y avait 1000 morts par jour, comme vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, tout est devenu très différent.
Hein. Ben oui, évidemment, mais nous le savons bien, ils n'en avaient pas. Et comme ils n'en avaient pas, ils étaient obligés d'expliquer que ce n'était pas grave. Et honnêtement, ils en ont rajouté un peu et j'ai regretté qu'ils en rajoutent un peu. Mais le fait est, ils n'en avaient pas, ils n'en avaient plus pour les stocks. Et comme la Chine avait été malade avant nous, elle utilisait tous ces masques pour elle-même. Et donc, aucun pays occidental ne pouvait en avoir à l'époque, il faut se rappeler. Le discours a été un peu stupide, je suis tout à fait d'accord.
Aujourd'hui, on est autosuffisant, nous a-t-on dit, en masque, mais en même temps, alors on a l'impression, on pourrait croire que, bon, bah, tant qu'on n'avait pas de masque, on nous disait que c'était inutile. Aujourd'hui qu'on en a, on en produit nous-mêmes, bah, on les rend obligatoires, histoire d'écouler le stock. Vous savez, comme les Français ont mauvais esprit.
Ouais, c'est pas exactement ça. Le fond du problème, si vous voulez, je vais parler un peu comme un scientifique, il faut des fois être sérieux.
Vous êtes un scientifique,
voilà, absolument. C'est que oui, le masque est une sécurité, pas absolue, mais c'est une bonne sécurité. On comprend bien d'ailleurs. Vous regardez, vous portez un masque des fois dans la rue, Frédéric.
Je fais comme tout le monde.
Vous voyez que ça fait de la buée sur vos lunettes.
Et évidemment.
Voilà. La contamination, ce sont les aérosols. Des fois les postillons, mais les aérosols.
Les micro-gouttelettes.
Absolument. Et quand vous êtes devant une glace, eh ben, évidemment, il y a de la buée sur la glace. Quand vous avez le masque, masque, il y a plutôt de la buée sur les lunettes. Et donc, l'aérosol, il ne va pas vers le voisin, il ne va pas vers l'autre. Et évidemment, le fait d'avoir un masque diminue de manière extrêmement importante la contamination de personne à personne. Et dans les endroits clos qui ne sont pas aérés, où l'aérosol, il va tout droit en quelque sorte, c'est certainement un moyen efficace. Et c'est aussi un moyen efficace, on va dire, lorsqu'il y a énormément de personnes dans une rue. Une manifestation, une rue commerçante, etc., etc. Alors, vous me demanderez peut-être, vous allez me demander, mais alors, pourquoi le porter tout le temps ? Moi, je suis venu là avec un masque, je l'ai gardé, je suis extrêmement obéissant, je dois dire. Non, je ne l'aurais pas mis, je n'aurais pas pris un risque considérable. Mais ce n'est pas totalement sot quand même de le mettre tout le temps. Parce qu'avant, jusqu'à hier, je ne le mettais pas tout le temps, mais je l'oubliais. Puis je le prenais dans ma poche, je le mettais sur mon nez et je l'enlevais. C'est-à-dire, si par hasard, il y avait des virus ou n'importe quoi sur le masque, j'en foutais partout. Et donc, quitte à faire l'habitude, quand on sort de chez soi, de le mettre sur son nez et de l'enlever que quand on rentre chez soi, honnêtement, c'est sans doute une sécurité raisonnable.
Je me souviens qu'au tout début, pendant le confinement, j'avais vu une personne âgée marcher toute seule dans la rue avec son masque et ne pas le quitter. Je m'étais presque inquiété pour elle. On n'avait pas l'habitude encore à ce moment-là.
Moi, j'en ai vu dans les bois.
Voilà. J'avais demandé à Antoine Flahault, directeur de l'Institut de la Santé Globale à Genève, j'avais demandé s'il fallait pas dire à cette personne de l'enlever. Il me dit non, surtout pas, c'est tellement difficile à manipuler pour nous, hein, les masques. On n'a pas encore l'habitude, alors il vaut mieux le garder toujours en place, ça évite de le retourner sur soi ou de respirer la surface.
Vous voyez, je vous dis la même chose qu'Antoine.
Vous avez dit la même chose qu'Antoine Flahault, effectivement. Vous pensez que ça va durer combien de temps ? Parce que ça aussi, quand nous étions confinés, on avait, au fond, nous, on se disait, bon, ben, dès que les urgences ne seront plus débordées, quand il y aura moins de gens en réanimation, quand il y aura moins de morts, et c'est à ce à quoi nous sommes parvenus, on ressortira. Mais là...
Je vais tout vous dire, Frédéric. Actuellement, je vous l'ai dit, la situation, elle s'aggrave, mais elle n'est pas tout à fait dramatique. Hein. On peut encore arrêter l'aggravation, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas faire les andouilles. Cela étant dit, il va y avoir des moments qui sont difficiles. Tout d'abord, la rentrée dans les entreprises, dans les écoles, et puis surtout, l'arrivée des frimas, ça a commencé aujourd'hui. On est moins dehors, on est plus à l'intérieur. Et que vous ai-je dit ? C'est à l'intérieur que se font les contaminations. Et par conséquent, se mettre en situation... d'augmenter les défenses, alors qu'on va s'engager dans un mois de septembre, éventuellement plutôt frais, un mois d'octobre, un mois de novembre, certainement automnaux, ça c'est quelque chose qui est important. Il faut arriver à passer la période automnale. C'est la période de tous les dangers. La période de tous les dangers.
Au fond, on attend le vaccin. Vous-même, vous avez parié au mois d'avril qu'on aura un vaccin
cet hiver.
Cet hiver, vous avez dit janvier...
Voilà, je continue à le dire.
Mais vous le pensez toujours.
J'ai assez bien vu l'évolution de cette maladie. Je connais très bien le problème des épidémies. J'ai fondé, j'ai dirigé une très très grande revue biomédicale qui a couvert le sida, la maladie de Lassa, l'Ebola, etc., etc. Puis j'ai travaillé en Afrique, j'ai été médecin-chef d'une préfecture en Afrique, et je connais assez bien le problème des épidémies. Et donc c'est vrai que je suis aussi, vous ne l'avez pas dit, le président de la Ligue nationale contre
c'est
le cancer.
Pardonnez-moi.
Absolument. Et donc, quand j'ai vu arriver l'épidémie, j'ai mis cette très très grande association en ordre de se défendre, c'est-à-dire en ordre de résister, en ordre de travailler à distance, etc., etc. Et ça, c'était plutôt bien. Et pour ce qui est du vaccin, contrairement à certains qui disent un peu n'importe quoi, oui, c'est une maladie, la Covid, c'est une maladie où il y a des anticorps et une réponse immunitaire cellulaire qui débute après l'infection. Et en règle générale, la guérison, la diminution de la production du virus sont parallèles à la réponse immunitaire. Dans ces conditions-là, ce sont des maladies comme la rougeole en quelque sorte, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à développer un vaccin efficace au moins quelques mois, une année. On sera peut-être obligé de revacciner tous les ans, tous les trois ans, mais on devrait y arriver, je suis quasiment certain qu'on va y arriver et qu'il sera en partie efficace et qu'il va diminuer le risque de transmission de personne à personne.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec Axel Kahn.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et c'est Axel Kahn qui est venu en direct pour cette première émission sur Europe 1, cette première émission de la saison, hein, j'entends bien.
Et le Frédéric Taddeï, à qui je souhaite bonne chance d'ailleurs.
Je vous remercie Axel. Ce pays qui se masque en ce moment, le nôtre, c'est un pays où dissimuler son visage en public est normalement interdit. Ça change beaucoup de choses, ça c'est une véritable révolution là.
Oui, c'est drôle. On m'a demandé parfois quelles seront les modifications du monde d'après par rapport au monde d'avant. Et j'ai répondu sérieusement, mais pas toujours, je sais rire également. J'ai dit, écoutez, dans le monde d'avant, quand il y avait un homme masqué, on appelait la police. Et maintenant, quand il y a un homme démasqué, on appelle la police. Dans le monde d'avant, quand il y avait une femme masquée, on s'indignait. Et dans le monde d'après, quand il y a une femme démasquée, eh ben, on s'indigne. Voilà, ça, c'est une différence considérable. Cela étant dit, c'est tout de même une parenthèse. Cette épidémie, on ne va pas vivre 10 ans avec. On ne va pas vivre, sans doute, les grandes épidémies. Même quand il n'y avait pas de vaccin, c'est de l'ordre maximum 2 ans. La grippe espagnole, ça a été 2 ans, si on se renvoie à cela. On ne va pas mettre un masque pendant 2 ans. Il faut le prendre, pas simplement comme le masque du gangster, hein, comme vous l'avez dit, mais... J'ai vu tout à l'heure Sandrine Taddeï. Tiens, voilà, vous connaissez Sandrine.
Sœur.
Voilà, c'est votre sœur. Elle avait un très joli masque, très joliment décoré. C'est-à-dire qu'il y a également toute la coquetterie. Moi, je trouve, quand je regarde, j'aime beaucoup, hein, il y a une vraie imagination. Il faut arriver aussi, c'est une obligation, c'est pas très sympa, il faut arriver aussi à le prendre du bon côté, à faire la fête. Eh bien, des yeux brillants d'une belle femme avec un beau masque, c'est... sacrément séduisant.
On se souvient que pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, notamment en France, les femmes débordaient d'imagination et elles se
avec
dessinaient
absolument.
Une fausse couture de bas parce
oui.
qu'elles n'avaient plus de
absolument.
Bas et elles se dessinaient une fausse couture. Vous pensez qu'on va comme ça phosphorer, imaginer, ça va nous rendre créatifs
Moi, j'ai déjà constaté cela. Il y a plusieurs éléments. Hier, je savais que vous alliez m'inviter, mais je voulais regarder. J'ai compté le nombre de personnes qui étaient masquées et démasqué, un trajet d'environ 4 km dans la ville de Paris, différents types de quartiers. Eh bien, les gens, ils hurlent, on dit, ils sont contre les masques. En réalité, la réalité de l'opposition au masque est inversement proportionnelle au bruit que font les hurleurs contre le masque. Il y a 85 à 86% des personnes qui sont masquées et qui le portent bien. Et pour ce qui est des femmes, il y a le phénomène que j'ai dit et un phénomène qu'on connaît très bien en Iran, par exemple, où les femmes qui sont obligées d'être masquées y mettent une coquetterie absolument extraordinaire afin de remettre de la magie dans ce caractère un tout petit peu contraignant du port du masque obligatoire. Eh bien, faisons cela. C'est une obligation. Eh bien, essayons de trouver une certaine forme de vertu à l'obligation.
Mais on est un pays qui aime beaucoup interdire. Ces derniers temps, on a beaucoup interdit de choses et on a tellement interdit de choses qu'on a oublié qu'on les avait interdites et on réclame leur interdiction. Et je me souviens, au moment des manifestations des gilets jaunes, certains voulaient interdire le port du masque chez les manifestants. Mais c'était déjà prévu par la loi. On n'a déjà pas le droit de se masquer dans une manifestation. C'est même la contravention peut aller jusqu'à 1500 €.
Simplement un point que je voudrais insister sur ce point. Il y a, on va dire, la vie ordinaire et il y a l'expression des libertés. Mais depuis très très longtemps, en fait, depuis environ 150-180 ans, il y a des exceptions à l'exercice des libertés individuelles pour des raisons sanitaires. C'est extrêmement ancien. Pour une raison très claire, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je ne me rappelle plus le terme exact, indique que la liberté s'arrête au moment où elle nuit à celle d'autrui. Et contaminer autrui qui ne veut pas être contaminé, ce n'est pas la liberté d'autrui. Et par conséquent, en matière sanitaire, il y a les maladies à déclaration obligatoire, il y a les quarantaines, etc. etc. Ça fait très longtemps qu'il y a des restrictions aux libertés individuelles pour des raisons sanitaires. Il n'y a rien de nouveau en ce domaine.
Et la loi qui interdit de se dissimuler le visage en public, celle de 2010...
Elle est mise entre parenthèses, car on est dans une forme d'exception.
Elle prévoyait le cas des masques de
absolument.
Protection en cas d'un
absolument.
Problème de santé publique. Tout cela était prévu. On peut entrer depuis le 20 juillet, au moins dans une banque cachée derrière un masque. Vous avez fait l'expérience?
Ah, j'ai pas encore essayé, mais vous avez raison. Rentrer avec un masque,
dans
il vaut mieux
banque.
Pas rentrer en même temps avec un pistolet en plastique pour regarder ce que ça va donner. Je déconseille.
On peut également défier les radars et les caméras de surveillance. Au fond, beaucoup qui se plaignaient d'être de plus en plus surveillés dans l'espace public, notamment par les caméras de surveillance, ils doivent aujourd'hui se réjouir.
Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils doivent se réjouir, mais ce dont je suis absolument certain, c'est que face à cette obligation un peu désagréable, c'est vrai qu'on a chaud, c'est vrai que ça fait de l'abus, etc., etc., il y a une manière de le prendre du bon côté. Incontestablement. J'en suis certain. Prenons-le du bon côté.
Pour les
en plus, ça nous protégera, alors.
Mais pour les rencontres amoureuses, ça risque quand même de compliquer les choses. choses.
Oui, mais on n'a pas dit qu'il fallait faire ça avec le masque. Hein.
Non, mais est-ce qu'on va pouvoir tomber amoureux d'un,
j'ai dit qu'on
va
faire ça avec le masque, en haut et en bas. Non, ce n'est pas obligatoire.
Non, mais voyez, est-ce que, on sait qu'il y a un pic des naissances le 23 septembre. Ça fait 3 ou 4 décennies que ça dure. Hein. Les conceptions sont deux fois plus nombreuses la nuit du réveillon du Nouvel An, 9 mois avant. On sait aussi qu'il y a des creux de naissance en mars. Le port du masque obligatoire, est-ce qu'il va avoir une influence sur la démographie? Y aura-t-il un pic de naissance 9 mois après le confinement et un creux 9 mois après le masque obligatoire?
Je ne saurais dire, parce que tous les scénarios sont envisageables. On peut considérer que les amoureux, les amants, lorsqu'ils vont se démasquer dans l'intimité, vont avoir un désir qui va être exacerbé. C'est tout à fait certain. Ou alors que le fait de voir l'autre démasqué va faire naître la crainte d'une contamination et alors on touchera plus l'autre. Dans ce cas-là, il va y avoir une diminution des naissances. Je ne ferai pas de pari. Hein.
Vous allez être attentif à quoi dans les jours et les semaines qui viennent, Axel Kahn ?
Il faut que l'on arrête l'augmentation des taux de positivité de PCR. Je vous dis, ça a quadruplé pratiquement. Ce n'est pas encore dramatique, mais c'est même extrêmement sérieux. On peut encore le maintenir. Si les gens sont sérieux, je suis sûr que l'on peut stopper et éviter de retomber dans ce que nous avons connu, qui était franchement très désagréable, qui est le confinement absolu. Mais il faut prendre les choses au sérieux, vraiment. Et ce n'est pas parce que il n'y a pas encore beaucoup de malades en réanimation et beaucoup de morts, qu'il faut faire comme si on se moquait qu'il y en ait. C'est-à-dire, tous les efforts que l'on... Le confinement, les gens ne savent pas ça. Le confinement avait un but. Il y a même des journalistes qui disent n'importe quoi. J'en ai entendu hier à la télé.
Oh, vraiment, des journalistes?
Oui. Le confinement a un but, c'était d'arrêter la contamination entre les personnes et de diminuer la circulation du virus. C'était ça. Et ça a bien rempli son rôle. Au déconfinement, la circulation du virus était faible. Elle réaugmente. Si on ne veut pas reconfiner, il faut mettre de nouvelles barrières à la circulation du virus. Et ma foi, le masque, ma foi, allons pour le masque.
Merci Axel Kahn d'être venu en direct sur Europe 1. Derrière la porte, il y en a un autre qui est venu en direct, c'est Hugo Frey.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bon anniversaire, Hugo Frey. Vous venez de fêter vos 91 ans il y a une dizaine de jours. Et je sais qu'après 90 ans, on commence à redire son âge. Il y a une certaine fierté.
Oui,
à
oui,
avoir.
C'est vrai.
C'est votre cas aussi.
C'est vrai.
On l'assume mieux. On se dit qu'on a remporté quelques batailles. Vous êtes avec Juliette Gréco, les deux doyens, je crois, hein, de la chanson française. Et vous venez de sortir un album autoportrait très dansant.
Oui.
On va en écouter tout de suite un extrait.
Hé, hey, capitaine, fais pas le malin. Ce soir, faut que tu me paies. Tu vas ce soir, faut que tu me paies. Toi, le pacha, t'es trop futé.
Folklore.
Ce soir, faut que tu me paies. Demain, tu voudras m'arnaquer. Ce soir, faut que tu me paies. Paie-moi.
On a fait ça avant les gilets jaunes, hein. Je vous le dis. Deux ans avant.
Pas besoin d'avocat. Paie-moi ce que tu dois. Si tu veux faire une bonne affaire,
Hugo Frey. Vous l'avez enregistrée quand, celle-ci ?
Je l'ai enregistrée au mois de février, mais la chanson, je l'ai écrite...
les paroles,
bien
les paroles
avant, bien,
parce que
bien
c'est
avant,
une vieille chanson
voilà. C'est une chanson du folklore américain, Pay Me My Money Down, c'est forcément une sorte de blues, une sorte de neuro-spiritual.
C'est une chanson de marin, hein, on l'a compris, Captain.
Ouais.
Autrefois, tout le monde mettait des paroles françaises, comme vous le faites encore aujourd'hui, sur les tubes anglo-saxons.
Oui.
Je me souviens que vous aviez d'ailleurs fait Yesterday des Beatles, c'était Je croyais.
Ça
se faisait beaucoup, on trouvait ça normal. Aujourd'hui, ça ne se fait plus.
Oui.
On a perdu quelque chose, vous pensez ?
Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas né auteur-compositeur. Je suis né avec un grand cœur et j'adore le talent des autres qui pour moi, c'est un cadeau du ciel, le talent. Et pourquoi se priver ? Moi, je fais des mélodies, mais je suis pas assez... Je connais d'ailleurs pas de chanteur, de compositeur français assez fort pour faire une mélodie aussi simple que Santiano ou que Paie-moi ce que tu me dois. Ça a des âmes simples.
Santiano, c'est une chanson de pirate aussi. Hein.
Oui. Mais ce sont des mélodies de 8 mesures répétitives pendant... on fait 10 couplets. C'était comme autrefois Le Bon Roi d'Agobert ou En passant par la Lorraine.
Et ce sont des chansons qu'on pouvait siffler.
Et qui fédèrent, qui rassemblent les gens, qui font danser les gens et qui donnent de l'énergie.
Vous faites partie d'une génération qui a vénéré l'Amérique. Vous vous déplacez d'ailleurs toujours dans une Jeep de l'US Army, la fameuse,
ouais,
celle du débarquement.
Qui a débarqué à Coursol en 1944.
Voilà. Est-ce que la fascination est encore là?
Oui, elle est encore là.
Vous êtes toujours fasciné par l'Amérique?
Oui, je continue à dire que le rêve américain existe parce que c'est un continent qui a été évidemment bouleversé par l'émigration de tout un tas de gens d'Europe centrale, de tous les pays. Des gens qui fuyaient la guerre, qui fuyaient les persécutions religieuses, qui fuyaient le racisme. Eh bien, même si aujourd'hui les États-Unis connaissent des grands problèmes, on peut dire qu'elle fait rêver quand même les gens qui s'embarquent sur des bateaux en caoutchouc, qui risquent de se noyer en traversant la Manche ou la Méditerranée, parce qu'ils ne peuvent pas aller en Amérique. Mais s'ils pouvaient, ils iraient en Amérique. C'est ça que je veux dire. On
ne
pourrait pas les dissuader.
Vous avez remarqué que les jeunes d'aujourd'hui sont plus impressionnés par le Japon que par les États-Unis. Ça commence avec les dessins animés, ça continue par les mangas.
Oui.
Bon, la musique, c'est différent. Ils restent plutôt intéressés que par la musique anglo-saxonne. Néanmoins, l'Amérique a perdu de son aura. Pour les plus jeunes, vos arrière-petits-enfants, j'imagine, sont,
oui,
moins américanisés que vous.
Ils sont tous en Amérique.
Alors, je me trompe.
Et dans mon disque, il y a une petite fille qui est mon arrière-petite-fille, qui est irlandaise et qui chante avec moi dans la chanson Harry et Canal. Elle chante, elle est irlandaise. À Dublin.
Il y a une chanson également contre le Ku Klux Klan. Elle date de quand, celle-ci? De l'époque?
Alors non, c'est moi qui l'ai inventée complètement.
Il y a un homme qui rôde et qui prend des noms.
Voilà. J'ai entendu cette phrase chantée par un black qui répétait ça plusieurs fois. Et je ne comprenais pas très bien au départ où est-ce qu'il voulait en venir. Et en cherchant, fouillant... Parce que moi, je fais des recherches. Hein, j'ai dit que je n'étais pas auteur-compositeur, mais je suis quand même une espèce de passeur. Un colporteur. Et j'ai fouillé, j'ai trouvé des photos extraordinaires autour de cette phrase. Et j'ai compris que, en fait, il parlait du Ku Klux Klan. Donc j'ai inventé cette histoire. Mais l'histoire, la fin de l'histoire, c'est un hommage à Georges Brassens qui a écrit une chanson qui s'appelle La messe du pendu. Ce pauvre gosse qui a été brûlé vif et découpé en morceaux devant 10 000 personnes, qui s'appelle Jesse Washington, en 1906, je crois, 1916.
Effectivement, torturé et lynché à Waco, devant 10 000 personnes.
Et
blancs,
c'est une histoire authentique.
Se faire torturer et lyncher.
Et c'est effectivement, j'ai raconté l'histoire de cette époque terrible qui n'est pas finie, malheureusement.
Il y a des hommes qui se cachent sous des draps blancs, ces visages sous des masques sont indécents. Dans la nuit, ils brûlent des croix en procession dans les bois. Il y a des hommes qui se cachent et qui brûlent des croix.
Hugo Frey, vous avez rencontré Martin Luther King,
oui,
en 1966, lorsqu'il est venu à Paris. À l'époque, Martin Luther King, on pouvait le penser, était adoré par les Français, mais il n'y avait pas grand monde à ce concert, malheureusement. Pourtant, c'était pour lui.
Si, c'était pas complet, mais c'était le premier concert organisé au monde, je crois, pour la cause de la lutte contre le racisme. Mais j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, puisque ça rejoint un peu votre question de tout à l'heure, est-ce que le rêve américain existe encore? Si Luther King revenait aujourd'hui, il serait obligé de constater, et je sais qu'il était honnête, qu'il y a des tas de vedettes mondiales qui sont dans la musique, qui sont noires, dans la mode, dans la littérature, au cinéma. Il y a même un président de couleur. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Le monde a quand même évolué. L'Amérique a évolué.
Merci Hugo Frey d'être venu en direct ce matin.
Merci de votre accueil.
Autoportrait, votre nouvel album. On se retrouve dans un instant avec Élise Zénithère.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Élise Zénithère, vous êtes l'auteur de L'Art de Perdre, dont on avait beaucoup parlé il y a 2 ans. Cette fois, vous publiez Comme un empire dans un empire, c'est toujours chez Flammarion. Alors c'est pour moi, je vous l'avoue, l'un des romans les plus réussis de cette rentrée littéraire. Il met en scène un homme et une femme qui ne se connaissent pas, mais qui vont se croiser. Ils incarnent 2 manières de faire de la politique. Lui est assistant parlementaire, elle est pirate informatique. C'est une manière de faire de la politique pour vous, ça?
Alors, elle est hacktiviste,
c'est, oui, c'est
activiste avec un H, c'est-à-dire que les actions qu'elle mène sont délibérément politiques.
Alors, on voit bien que l'un est au dedans, l'autre est au dehors, comme vous dites. Ce sont deux territoires différents, le dedans et le dehors. Qu'est-ce que c'est le dehors? On le connaît, nous y sommes tous. Mais le dedans, c'est quoi?
Le dedans, c'est un des noms que elle, puisque c'est le nom de cette pirate, donne à Internet. Et du coup, c'est un monde qui est beaucoup plus secret, beaucoup plus obscur. C'est un monde que le dehors ignore. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est un monde où les actions politiques qu'on mène sont des actions anonymes, des actions qui ne sont pas reconnues. Et donc, c'est une manière de faire de la politique qui ne nous assure aucune reconnaissance sociale, aucune reconnaissance financière non plus. Donc, c'est totalement différent des ors de la République.
Alors, le dedans n'a rien à voir avec l'Internet que nous connaissons. Hein. Nous, on connaît l'Internet des GAFA. L'Internet du dedans, c'est au fond ce qui reste aux premiers habitants d'Internet, du temps de l'Internet libre.
Oui, c'est une manière d'utiliser en fait ce qui nous est donné d'une façon qui n'est pas celle qui a été pensée par les concepteurs. Et d'ailleurs, dans le roman, donc je cite le CCC, le Chaos Computer Club, qui est un très vieux club de pirates qui est basé à Berlin et qui dit en fait que si vous utilisez votre bouilloire, non pas pour faire du thé, mais pour faire cuire des knackis dedans, c'est déjà du hacking d'une certaine manière. Et c'est évidemment une définition très allemande, puisque faire bouillir des saucisses, c'est pas... C'est bon, bref, je ne donnerai pas d'avis sur la gastronomie allemande. Mais c'est, voilà, cette idée de ne pas se contenter des mouvements que Apple ou que Google ou que, a voulu qu'on fasse. C'est l'idée d'entrer à l'intérieur, de bidouiller les choses, de pouvoir dépasser l'interface et de se faire sa propre maison.
Les hackers, le darknet, on voit ça dans les films, on en parle dans les romans, sont souvent des fantasmes. Vous connaissez très très bien. Alors est-ce que parce que vous avez beaucoup documenté, vous avez beaucoup travaillé, à la manière d'un Émile Zola au 19e siècle, qui a véritablement enquêté sur les grands magasins avant d'écrire Au bonheur des dames, ou bien vous étiez déjà familière de ces entrailles?
Non, j'étais pas familière de ce monde-là. Je me suis beaucoup documentée. J'avais avec moi un peu tout le temps la thèse de Gabriela Coleman, qui est une anthropologue et qui a donc beaucoup travaillé sur l'organisation des groupes de hackers et de activistes. Ce qui permettait aussi pour moi d'aborder la question pas par un angle directement de technique informatique, mais par l'angle de l'anthropologie qui m'est plus compréhensible. Et puis oui, j'avais envie aussi de faire quelque chose qui soit pas de l'ordre du fantasme et de l'ordre de ces super-héros. C'est-à-dire, je me disais, tous les hackers que j'ai vus au cinéma, dans les séries, c'est des surhommes en fait. Ils sont mi-hommes, mi-machines, ils sont capables de penser en code à la vitesse de la lumière et puis de bouleverser à peu près toutes les infrastructures informatiques qui existent.
C'est une grande facilité pour les scénaristes. Quand ils n'ont plus d'idées, quand ils ne savent pas comment s'en sortir, ils sortent leur hacker.
C'est ça, c'est le fameux Deus Ex Machina dont Aristote disait que c'est quand même la pire des trouvailles dans une pièce. Bon, bah là, voilà, le Deus actuel, c'est le hacker qui réussit à tout bidouiller.
Alors, vous les connaissez. Alors, Julian Assange, on le connaît, mais aussi Jeremy Hammond, un membre des Anonymous qui a été condamné à 10 ans de prison. Il devrait sortir bientôt, d'ailleurs. Il a 35 ans. Vous parlez de Phineas Fisher qui a piraté Gamma Group et Hacking Team, des entreprises de surveillance. Ou Mercedes Effer qui a été arrêtée par le FBI quand elle avait 20 ans après avoir participé à une opération contre PayPal. Qui sont-ils, votre héroïne à vous ou tous ceux que je viens de cité pour vous, vous les voyez comment? Ce sont des idéalistes? Ce sont des dévoyés?
Ce sont des idéalistes. Jeremy Hammond notamment, qui maintenant a apparemment donc une date de sortie de prison début 21. Dans le livre, je dis qu'il doit sortir en 2020 parce qu'on n'avait pas encore sa date, mais donc c'est début 21 finalement. Jeremy Hammond, c'est vraiment un Robin des Bois. C'est un type qui a détourné de l'argent des cartes de crédit d'une société, des employés d'une société de surveillance et qui les a redistribués à des organisations caritatives. Et ça s'inscrit au terme d'une longue vie de combat, par ailleurs dedans et dehors. C'est ce qui est fascinant avec Jeremy Hammond, qui n'est pas juste pirate, qui a été aussi un militant, un grand manifestant, etc. Et puis pour moi, c'était important qu'elle, ce soit une femme. Donc c'est vrai que René Mercedes-Effer ou Eva Galperin, dont je parle à la fin dans les remerciements du livre, ont été des figures sur lesquelles je me suis beaucoup appuyée. Parce que les femmes sont d'abord minoritaires et puis même quand elles sont là, elles ont tendance à se cacher parce qu'il y a un accueil très sexiste qui peut leur être fait sur certains forums. Et donc on a l'impression que c'est encore un monde qui est complètement dominé par les hommes. Donc de dire « moi je vais faire un personnage qui sera un pirate », et ce sera une pirate.
Alors c'est vrai que le pirate solitaire, on y pense souvent, c'est quelqu'un qui peut mettre à mal une société, un gouvernement, des institutions ayant dépensé des millions pour leur sécurité. Il est capable de mettre à mal des entreprises pareilles.
Et c'est ça qui est beau, je pense que c'est ça qui me plaisait aussi dans cette manière de faire de la politique. C'est que, comme le dit elle dans le livre, c'est un des rares endroits où on peut encore croire que David va triompher de Goliath. Qu'une personne isolée, peut-être même dans un garage, peut-être même un ou une adolescente de 14 ans, avec la patience, avec l'acharnement et puis la filouterie, peut contourner des systèmes qui sont mis en place par les plus grosses entreprises au monde. Et ça, c'est quand même une bouffée d'espoir qui est assez dingue.
A fortiori, quand ils se mettent à plusieurs. Et là, il y a eu des véritables batailles. On connaît les batailles politiques qui ont égrené ces dernières années. On ne connaît pas les batailles qui se sont livrées dans le dedans, comme vous dites. La première que vous racontez, c'est celle qui a donné naissance à Anonymous. C'est à cause d'une vidéo dans laquelle Tom Cruise était interviewé sur la scientologie et où il se comportait littéralement comme un illuminé. Si cette vidéo est encore aujourd'hui sur Internet, c'est grâce à des pirates comme votre héroïne.
Oui, il y a eu une sorte de jeu de chat et de la souris, puisque l'église de la scientologie a voulu faire enlever cette vidéo, qu'elle jugeait, et à juste titre, très gênante. Vraiment, Tom Cruise dedans rit comme un fou furieux, c'est un peu terrifiant. Mais ces internautes qui n'étaient pas encore les Anonymous, eux, voulaient voir cette vidéo. Cette vidéo les faisait rire, cette vidéo les amusait, donc ils l'ont repostée partout. Ils se sont fait poursuivre par les avocats de l'église de la scientologie qui disaient « cette vidéo nous appartient, vous n'avez pas le droit de la poster ». Et donc, finalement, tout un débat a eu lieu autour de la question de la propriété, à qui appartiennent les choses qui sont sur Internet, etc. Et l'église de la scientologie, ayant un tel pouvoir, ayant un tel nombre d'avocats, etc., finalement, il a fallu en face une mobilisation qui soit suffisamment grande pour essayer de contrer cette massue de la scientologie. Et c'est la première action de groupe et d'Anonymous. Et là, on parle de gens dans des dizaines de pays différents qui ne se connaissent absolument pas et qui se réunissent pour mener des attaques. Donc il y a une constitution d'un « nous » qui est complètement flou, qu'il restera puisque les gens sont anonymes, mais qui réussit à s'agréger le temps de mener une action et d'essayer de défaire un ennemi.
Alizé Litter, on continue de parler de « Comme un empire dans un instant ».
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Alizé Litter qui vient de publier « Comme un empire dans un empire ». Je l'ai dit, c'est un homme et une femme. On a parlé de la femme, elle est pirate informatique. L'homme, lui, fait partie de ceux du dehors. Il est assistant parlementaire, il s'appelle Antoine. Et souvent, on s'aperçoit que ceux du dehors ne connaissent pas le dedans. Ils ne connaissent rien à la cybersécurité. Mais ça ne les empêche pas, comme dit votre héroïne, de pondre des lois qui envoient des gens en prison.
Oui, Antoine est appelé le temps d'une mission pour le député à travailler sur des questions de cybersécurité. Il voit son employé qui s'endort, en fait, qui écoute absolument rien aux entretiens et qui pourrait pas penser à un sujet plus ennuyeux. En fait, le député réussit à croire que le dedans ne le concerne pas du tout. C'est-à-dire qu'il réussit à croire, malgré le fait qu'il ait un, voire plusieurs smartphones, un ordinateur portable, des ordinateurs dans son bureau, que Internet n'a pas donner une certaine forme à sa vie. Et donc, il s'en désintéresse, il ne veut pas savoir ce qui se passe dessous, c'est comme un moteur de voiture dans lequel il ne mettrait pas les mains.
Et c'est vrai que ça envoie des gens en prison, puisque beaucoup des héros de votre héroïne sont en prison, hein, ou en prison comme Jeremy Hammond, comme Julian Assange, ou recrutés par le dehors. Hein, ils deviennent mercenaires, ils se laissent acheter par des entreprises de surveillance ou de sécurité. Et même son petit ami, elle, est en prison. On a l'impression que c'est un monde qui déjà se termine.
Est-ce qu'il se termine ou est-ce qu'il n'est pas encore passé à l'étape d'après, en fait ? Notamment aux États-Unis, les criminels, les hackers sont criminalisés en vertu d'un texte sur les ordinateurs qui date des années 80 et donc qui n'a pas du tout pensé le développement d'Internet, qui pense encore en termes de un ordinateur, c'est comme une maison, c'est une propriété privée, y entrer, c'est faire une effraction, c'est enfoncer une porte. Mais ça ne pense pas la manière dont les données peuvent être partagées, ça ne pense pas le cloud, ça ne pense pas ces choses-là. Donc c'est le texte de loi qui est obsolète et qui devrait se terminer, pas le monde des pirates.
Alors, on pourrait croire que votre pirate a l'avenir pour elle. Là, en fait, on a des doutes quand même. Et alors, on a encore plus de doutes pour ce qui est d'Antoine, votre assistant parlementaire, puisque lui, il travaille pour un député de l'opposition, un député socialiste. Le Parti socialiste a beaucoup de mal à se faire entendre aujourd'hui. En plus, c'est un député de l'opposition. Donc, il n'a aucun poids. Même appartenant à la majorité, il n'aurait eu aucun pouvoir. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, dans la Ve République, est à la remorque du gouvernement. Ce que veut le président, c'est ce qui se produit sur le plan législatif. C'est aussi un autre de vos personnages qui dit cela. On a l'impression que la politique, c'est devenu, en tout cas la politique de gauche, c'est devenu aussi difficile au-dedans et au-dehors.
Alors c'est extrêmement compliqué pour Antoine, en effet. Il n'est pas totalement désespéré, c'est-à-dire... La grande question d'Antoine, c'est de savoir est-ce que le problème, c'est que cette machine de l'Assemblée nationale est trop grosse et donc trop lente ? Ce qui serait à la limite un problème qu'on peut résoudre. Il suffit de prendre son mal en patience, comme Antoine l'a fait pendant plusieurs années. Si c'est que ça, ça va. Le problème, c'est est-ce que cette machine n'est pas en fait totalement hors sol ? Et ça, c'est la question qui va se poser de manière très brûlante au moment de l'irruption des Gilets jaunes. C'est-à-dire se dire, bon, bah, finalement, dans cette Assemblée nationale, très peu de gens connaissent les réalités dont parlent ceux qui sont dans la rue. Et puis, ils ont d'autres enjeux. Ils ont un autre calendrier. Ils ont une prochaine élection à penser, les élections européennes. Ils ont des arrangements entre eux dans leur groupe, etc. Ils ont des petites guerres pour essayer de marquer leur terrain par rapport à En Marche qui prend toute la place. Et donc, on n'a pas envie de s'occuper des Gilets jaunes. Et ça, Antoine, du coup, va vraiment... Pour le dire brutalement, le manger en pleine face, ça ne veut pas dire simplement que l'Assemblée est trop lente, ça veut dire que l'Assemblée n'est peut-être plus le bon endroit pour lui.
Mais en ce moment, même ce week-end, il y a l'université d'été du Parti Socialiste. On sait qu'Olivier Faure a appelé à y participer, toutes les forces de gauche, les forces progressistes. Vous auriez envie de leur dire de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe au-dedans, aux batailles qui se livrent à l'intérieur d'Internet et sur lesquelles nous ne sommes pas tellement renseignés. En tout cas ceux qui n'ont pas encore lu votre roman.
Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais dire à tout le monde et pas uniquement au Parti Socialiste. C'est que finalement, quand on pense l'action politique, alors évidemment, on peut la penser en termes de cet engagement dans des partis, on peut la penser en termes de manifestations, de grèves, mais le dedans, Internet est aussi vraiment devenu un nouveau champ de bataille. Et c'est important de s'y intéresser. La question des libertés, la question de la surveillance, la question des violences aussi, elle se passe énormément sur Internet. On ne peut pas simplement se dire que c'est quelque chose qui concerne que 4 ou 5 gamins qui passent leur temps à jouer à des jeux ou sur des forums en ligne. On est tous touchés par ça. On balade tous dans nos poches des smartphones qui peuvent devenir des espions, donc qui peuvent devenir des armes retournées contre nous pour du chantage, pour du harcèlement. C'est dangereux de s'en désintéresser.
J'ai l'impression que votre roman, Alice Zénitaire, c'est un roman sur la destruction de l'ordre établi.
Alors, il y a cette dimension et je pense qu'il y a une question de qu'est-ce que c'est cette destruction ? Est-ce que c'est un mouvement qui finalement est joyeux parce que cet ordre établi, on n'en peut plus ? Ou est-ce que c'est un grand moment de perdition parce qu'on ne sait pas encore par quoi le remplacer ? Et une fois qu'on met à terre certaines structures qui étaient totalement habituelles, eh ben, y a une grande difficulté à penser le monde et l'action politique qu'on peut faire dans ce monde-là.
Dernière question, Alice Zénitaire, vous qui connaissez le Darknet, ça ressemble à quoi le Darknet ? Tout le monde imagine qu'on y vend de la drogue et des armes. C'est tout, vraiment ?
Alors, c'est vrai. C'est vrai, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Le Darknet, ce n'est pas une rue sombre avec des dealers qui ouvrent leur manteau pour vous présenter toute la came du monde. Il y a aussi, par exemple, la plus grande bibliothèque numérisée du monde sur le Dark Web. Il y a énormément de choses autour des lanceurs d'alerte. Il y a énormément de choses pour vous apprendre à sécuriser votre ordinateur. J'imagine, et j'y suis pas allée, parce que ce n'est pas pour ça que j'allais sur le Darknet, mais j'imagine qu'il y a des forums d'origami et des photos de petits chiens. Il y a tout, en fait. Il y a tout, juste un peu plus profond.
Merci Alice Zénitaire. Votre nouveau roman, Comme un empire dans un empire, vient de paraître chez Flammarion. Cette émission se termine.